Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, bon matin et bienvenue sur les ondes de Cana M au Kiosque Magazine de ce mercredi 18 février 2015 consacré à la santé, à la cuisine et à la maison. Pour la revue de presse aujourd'hui, vous serez en compagnie de Sophie Chevance, de Safia Larabi. Allô Safia.
Bonjour.
Et de Dominique Meillet, de retour parmi nous et rentrée de son voyage. Comment ça va Dominique?
Très bien, bonjour à tous. C'était magnifique.
Voilà. C'était magnifique, la Birmanie, hein, c'est ça?
Oui, ouais, j'ai été faire un petit tour en Birmanie et c'était vraiment très très beau. Et aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois.
Oh.
Voilà, l'année de la chèvre. Je crois. Voilà. Donc, bonne année à tous.
Bonne année, oui, pour le nouvel an chinois. Alors, Dominique, je crois que tu vas venir avec nous. Ben, en fait, tu seras parmi nous sur une base occasionnelle parce que je pense que tes valises ne sont pas très loin et si peu que tu repartes en voyage bientôt.
Voilà, voilà. Donc, moi, je suis la spécialiste remplacement, on dit.
Ok, c'est bon. Donc, pour cette semaine, Dominique, de quoi tu nous parles?
Moi, je vais vous parler de généalogie et de gros mots.
Oh,
voilà.
Parfait. De ton côté, Safia?
Eh bien, pour ces temps frileux, j'ai choisi une sélection particulière qui a pour thème le bonheur.
Oh,
tout un programme.
De mon côté, je vous emmènerai côté santé. Je vous parlerai d'une étude qui établit un lien entre le groupe sanguin et le diabète. Et puis ensuite, un petit billet sur la rougeole. On en parle beaucoup, alors j'ai pas pu résister. Et puis, côté cuisine, il sera question du safran cultivé au Québec. L'or rouge du Québec. Et puis ensuite, nous lèverons le voile sur les tapas. À tout de suite.
Bonjour à tous. Donc, mon premier texte est un texte sur la pensée positive issue d'un article d'Olivia Lévy de La Presse. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, le livre de Psychopop, 21 jours pour se plaindre de Will Bowen, veut changer notre vie, voire changer le monde avec son mouvement A Complaint-Free World. Il faut réussir pendant 21 jours consécutifs à ne pas se plaindre. Tout un défi. Le livre se vend avec un petit bracelet mauve qu'on doit porter au poignet. Dès qu'on se plaint, ou émeut la moindre critique ou même un petit sarcasme, il faut changer le bracelet de côté et recommencer à zéro. Du retour au jour 1. Et ça, c'est si on réussit à aller de l'avant, au-delà du jour 1, parce que à moins 35 degrés, en marchant sur les trottoirs encore glacés, disons qu'il est difficile de ne pas se plaindre et qu'on change souvent le bracelet mauve de poignet.
J'allais t'en parler justement, je me disais comment en faire avec ce temps.
Eh bien, quelques astuces. L'expérience de ce livre aurait peut-être été plus facile en mars ou en avril, à l'arrivée des beaux jours, comme tu disais Sophie, mais pas de stress. Car l'auteur Will Bowen prévient qu'on peut mettre de 4 à 8 mois pour réussir à passer les 21 jours consécutifs sans se plaindre. Le choix de 21 jours n'est pas anodin. C'est le temps qu'il faut, selon les experts, pour qu'une nouvelle habitude s'enracine véritablement. L'objectif de l'auteur est clair, faire porter ce bracelet sans se plaindre par 60 millions de personnes, soit environ 1% de la population mondiale. Si nous arrivons à transformer positivement l'attitude de 1% des êtres humains seulement, cela aura un effet entraînement qui sensibilisera le reste de l'humanité, écrit Will Bowen. Nous ne sommes pas contre la vertu et allons tenter de changer l'humanité par notre petite contribution, même si nous sommes mal partis. Alors restons motivés. L'auteur part du principe que nous nageons dans une mer de négativité et de plaintes. L'habitude de se plaindre est telle que nous n'en sommes même plus conscients. Mais à force de changer le bracelet de côté, on finit par se rendre compte de nos paroles et de nos nombreuses plaintes, avance-t-il dans son livre. Et c'est la première grande étape qu'il faut franchir pour passer de l'inconscience à la conscience. Quand nous prenons pleinement conscience que nous sommes de véritables râleurs, il faut bien l'admettre, soit au contraire, une fois le malaise passé, nous avons la volonté de changer et de profiter des bienfaits que procure ce changement. Meilleure santé, relations plus satisfaisantes, avancement professionnel, sérénité, joie, bref, une vie meilleure pour un monde meilleur. Nous sommes trop nombreux à pester contre le temps qu'il fait, contre notre conjoint, notre travail, notre corps, nos amis, l'économie, notre pays, bref, tout est prétexte à se plaindre. Plusieurs dizaines de fois par jour et tous les jours, car se plaindre attire peut-être, dans certains cas, la sympathie des autres. Mais à la longue, l'énergie négative devient épuisante. Nous sommes naturellement attirés vers des êtres optimistes qui nous inspirent. Et si nous le devenions, nous aussi ? Apprendre à voir le verre à demi-plein. L'être humain a tendance à se plaindre, et c'est vrai. C'est un travail constant d'être positif et ça demande un vrai effort. On a aussi besoin de verbaliser ce qui ne va pas. Mais il faut se forcer à voir le côté positif des choses, explique la docteure Véronique Rouvès, psychologue à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle cite un exemple. Quand on a une évaluation au travail et que 90% des points sont positifs, on va retenir les 10% négatifs. Elle ajoute que s'entourer de gens heureux et optimistes est une bonne chose à faire, car c'est contagieux. On voit plusieurs patients dépressifs nous confier qu'ils se sont fait mettre de côté par leurs amis parce qu'ils étaient trop négatifs. C'est difficile, aussi pour les autres. Si on cesse de se plaindre, nos pensées deviendront plus positives, cela va de soi. Se plaindre active les régions de notre cerveau qui sont associées aux affects négatifs, comme le stress. On peut penser que cette tendance finit par user le système immunitaire et nous rend plus vulnérables aux maladies. L'effet inverse est observé. Voyez les choses plus positivement et vous finissez par vous sentir mieux, explique Lucie Mandeville, psychologue et spécialiste de la psychologie positive. Donc, du silence pour réfléchir, on franchit une nouvelle étape, celle du silence et de la peur de parler, de crainte qu'une plainte ne s'échappe de notre bouche. Et ce silence permet de réfléchir. Respirons, choisissons nos mots et la sagesse viendra. C'était les conseils de Olivia Lévy pour changer sa perception. Alors, le bonheur, c'est quoi ? Un sujet de Julie Champagne de Moi et Compagnie de mars 2015. Il n'existe pas de consensus autour de la définition du bonheur. Le bonheur repose toujours sur une évaluation personnelle, ce qui rend le concept plus ou moins définissable, explique la docteure Stéphanie Léonard, psychologue. Ce qui me rend heureuse n'est pas nécessairement ce qui rendra mon voisin heureux. En effet, le bonheur est un état de bien-être subjectif. En 2004, une étude surprenante a permis d'établir que 50% de notre aptitude au bonheur repose sur notre patrimoine génétique. Il n'est donc pas faux de croire que certaines personnes naissent avec une prédisposition pour le bonheur, explique la docteure Léonard. Il y a ensuite 20% de notre bonheur qui découlerait de notre propre influence et 3% s'expliquerait par les événements de la vie, les facteurs environnementaux, le statut socio-économique, les revenus ou l'éducation. Le 27% restant est un mystère. Le chercheur américain Martin Seligman estime pour sa part que le bonheur est composé de trois piliers fondamentaux. Le plaisir, l'engagement dans nos choix personnels et professionnels, ainsi que le sens de notre vie. Je crois que pour être heureuse, il faut être authentique et connecté, propose la docteure Léonard. Lorsque mes choix respectent la personne que je suis vraiment et non pas ce que l'entourage et la société me dictent de faire, alors je suis authentique. Idem pour la connexion. Si je suis toujours en train de m'étourdir, si je ne suis pas en contact avec mes pensées et mes émotions véritables, alors le bonheur ne sera pas moins accessible.
Eh bien, moi, je vais vous parler de généalogie avec un texte de Karine Wilder dans le Véro Magazine, hiver 2014-2015. Histoire de gènes. Peu importe le terreau, déterrer nos racines les plus anciennes est devenu un passe-temps presque aussi populaire que le jardinage. Car même s'il pousse essentiellement dans l'ombre du passé, seul notre arbre généalogique rassemble toutes les feuilles de route de nos ancêtres qui ont planté le décor de nos origines. Autrement dit, la généalogie nous sert de bêche pour défricher les grandes lignes de notre histoire familiale et, d'année en année, cette discipline ne cesse de gagner du terrain. Depuis environ 5 ans, on observe un engouement croissant pour la généalogie, confirme Michel Banville, président de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. De nombreux colloques, congrès ou événements, comme les fêtes de la Nouvelle-France ou le Salon de la Famille, contribuent à éveiller l'intérêt des gens. De plus, en tapant le mot « généalogie » dans un navigateur web, on obtient désormais plusieurs millions d'entrées, ce qui facilite grandement les recherches de ceux qui veulent renouer avec leur passé. Comme le souligne la psychologue et psychanalyste Hélène Morissette, il n'y a maintenant plus personne pour raconter les hauts faits des générations antérieures, et ce vide commence à se faire sentir. Au temps d'éveillé, l'entourage des enfants leur transmettait toute l'histoire de leurs ancêtres, précise-t-elle. Aujourd'hui, comme les familles sont plus petites et moins soudées, cette tradition pourtant essentielle au développement identitaire de chacun s'est perdue. Pour comprendre d'où ils viennent et ce qui les a forgés, les gens ont donc tendance à se tourner vers la généalogie, une quête personnelle aussi importante qu'utile puisqu'une grande partie de leur bagage médical et psychologique découle de leur passé familial. Même si cela peut nous paraître surprenant, nos ancêtres pourraient nous avoir légué hors testament toutes sortes de difficultés ou de maux récurrents. Ainsi, il y a 3 ans, en allant consulter une naturopathe de renom, Catherine a appris que les nombreux épisodes de difficultés respiratoires de ses 2 enfants étaient peut-être directement liés à la triste fin de leur arrière-grand-père. En dînant dans un restaurant de Montréal, ce dernier s'était bêtement étouffé avec un morceau de viande. Ce à quoi s'ajoute l'étrange histoire de Véronique qui, à l'instar de presque toutes les femmes de sa parentèle, s'est fait plaquer pendant sa première grossesse. Ou celle de Charlotte Salomon, une peintre dont le tableau de famille se compose d'une longue lignée de suicidaires abonnés au Sceau de l'Ange. Ou encore celle de Stéphane, un entrepreneur qui a découvert par hasard que son grand-père et 2 de ses oncles avaient comme lui fait faillite quelques jours avant Noël à l'âge de 39 ans. Les psychanalyses ont longtemps focalisé toute leur attention sur le triangle papa-maman-bébé. Et, ce faisant, elles ont négligé le reste des membres de l'arbre, explique le journaliste et écrivain français Patrice Van Hersel. Leur rôle est toutefois très important. Sigmund Freud en était conscient. Il l'a dit clairement dans des lettres adressées à son ami William Fliss. Mais le triangle oedipien l'accaparait déjà et il était persuadé que d'autres s'en occuperaient à sa place. Vrai, néanmoins, il a fallu attendre les années 70 et les travaux d'Anne Hanselin-Schutzenberger pour que les arrière-grands-parents, les cousins éloignés ou les vieilles tantes s'immiscent enfin peu à peu dans les cabinets. À la lumière de ce retour aux ancêtres, quantité de choses considérées comme mystérieuses par les thérapeutes se sont soudainement éclaircies, explique Patrice Van Hersel. Grâce à la psychogénéalogie, on peut désormais expliquer pourquoi, au sein d'une même famille, des gens semblent frappés par une malédiction en accumulant les échecs professionnels, en tombant malades, au même âge ou en collectionnant les histoires d'amour malheureuses. La psychogénéalogie permet aux personnes qui souffrent aujourd'hui physiquement ou psychiquement, sans raison évidente, de découvrir comment cela peut être relié à leur histoire familiale, souligne Juliette Allais, psychogénéalogiste française. Il existe un inconscient familial et tout ce qui a été mal vécu et mal intégré par nos ascendants laisse des traces dans la psyché familiale. Je compare cette transmission à la pièce jointe d'un courriel qui ne sera jamais ouvert. Les émotions négatives ou les événements difficiles qui n'ont pu être digérés et évacués peuvent alors prendre un autre chemin, comme si un ancêtre parlait à travers nous pour que sa douleur soit exprimée. L'héritage de nos prédécesseurs comporte également plein d'éléments positifs. Le talent, la pratique d'un métier, l'amour de la musique ou de la cuisine, les coutumes, etc. Mais comme on n'en souffre pas, on n'en parle pas trop. Ce qui est dommage parce que mieux connaître nos ancêtres, c'est aussi mieux se connaître. Présentement, le Québec est cependant un peu à la traîne sur le plan de la psychogénéalogie. Très peu de psychologues s'étant spécialisés dans ce domaine. En revanche, ça ne veut pas dire que la psychogénéalogie n'est pas une technique intéressante, assure Hélène Morissette. Loin de là. La psychanalyse se penche d'ailleurs elle aussi sur tout ce qui s'appelle des secrets de famille. Comme le montre le conte La Barbe Bleue, ce n'est pas parce que des secrets sont verrouillés à double tour derrière une porte qu'ils sont silencieux. Et si quelqu'un cherche à comprendre d'où viennent les malaises qui l'indisposent, la psychanalyse saura débusquer ce qui s'est passé il y a 3 générations. Tant que la psychogénéalogie ne sera pas exercée davantage au Québec, la psychanalyse aura encore beaucoup de choses à apporter. Ce que Freud aurait sûrement été heureux d'entendre.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
Après ce titre de Mes aïeux, des générations, on reste un peu dans la thématique du patrimoine héréditaire et de notre bagage en fait génétique. Avec un petit article que j'ai trouvé sur passeportsanté.net, un texte de Martin Lacroix qui s'intitule « Les personnes du groupe O ont moins de risques de devenir diabétiques ». Donc une étude menée auprès de plus de 82 000 femmes suivies pendant 18 ans suggère un lien entre le groupe sanguin et le risque de diabète de type 2. D'après celle-ci, le risque serait plus faible pour les individus du groupe O que pour les groupes A, B et AB. Il faut savoir que le diabète touche aujourd'hui plus de 382 millions de personnes dans le monde, dont près de 90% souffrent du diabète de type 2. Donc c'est la forme de diabète la plus répandue. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis quelques décennies. Certains facteurs de risque sont déjà bien connus, comme l'obésité, l'inactivité physique, le tabagisme, l'hypertension, l'hypercholestérolémie ou une mauvaise alimentation. Mais globalement, la maladie reste encore mal comprise et c'est la raison pour laquelle les chercheurs tentent d'identifier d'autres facteurs. Guy Faghirazi et ses collaborateurs de l'unité mixte de recherche 1018 de l'Université Paris-Sud ont choisi de s'intéresser au groupe sanguin, plusieurs études ayant déjà confirmé l'existence de liens entre ces groupes et différentes maladies. Les résultats de cette étude indiquent que les individus ayant le groupe sanguin O ont un risque moindre de développer un diabète de type 2. À titre de comparaison, les personnes du groupe A connaissent un risque accru de 10%, celles du groupe AB de 17% et celles du groupe B de 21%. En France, 37% de la population sont issus du groupe O, 39% au Canada. 39% sont issus du groupe O au Canada. Découvert au tout début du XXe siècle, les groupes sanguins diffèrent par la présence ou non d'antigènes. Les antigènes, donc, ce sont les molécules susceptibles d'être reconnues par les anticorps. Donc, les groupes sanguins, ça diffère par la présence ou non d'antigènes, les antigènes A et B à la surface des globules rouges du sang. Ainsi, les globules rouges du groupe sanguin A possèdent des antigènes A, ceux du groupe B des antigènes B, ceux du groupe AB des antigènes A et B, tandis que ceux du groupe O n'en contiennent pas. On distingue également les individus rhésus négatifs qui ne portent pas d'antigène D à la surface des globules rouges et les individus rhésus plus. Or, l'étude en question a aussi montré que les femmes ayant un groupe sanguin O négatif, ce qui ne représente que 6% de la population française et 7% de la population canadienne, avaient un risque de diabète plus faible que les autres. Comment l'expliquer? À l'heure actuelle et au regard de nos connaissances, aucun mécanisme biologique ne permet d'expliquer cette association. Les chercheurs ont néanmoins émis certaines hypothèses susceptibles d'expliquer, au moins en partie, le lien entre le groupe sanguin et le risque de diabète de type 2. D'abord, il semblerait que certains marqueurs de l'inflammation soient présents en plus grande quantité chez les personnes qui ne sont pas du groupe O. Or, ces marqueurs seraient impliqués dans le développement du diabète de type 2. Par ailleurs, il a été montré que les différents groupes sanguins étaient des facteurs génétiquement déterminés, pouvant moduler la composition du microbiote intestinal. Alors, le microbiote intestinal, ce sont en fait l'ensemble des micro-organismes vivant dans l'intestin. Or, celui-ci est connu pour jouer un rôle dans le métabolisme du glucose, la balance énergétique et l'inflammation chronique. Si de telles observations devront être confirmées au sein de plus grandes populations, elles constituent néanmoins une avancée dans la compréhension de cette maladie, qui constitue la quatrième cause de mortalité dans la plupart des pays développés. Un petit billet de Pascal Breton, Rougeole au pays de Mickey. La méfiance et la désinformation sont plus néfastes que les vaccins. L'éclosion de rougeole qui frappe 11 États américains après avoir commencé à Disneyland en Californie le démontre. C'est un petit texte paru dans la presse en date du 29 janvier 2015. Cette maladie extrêmement contagieuse est éliminée des Amériques depuis l'an 2000. Les cas sont pourtant en hausse. En 2011, le Québec a connu sa pire épidémie en 20 ans, forçant la tenue d'une campagne de vaccination massive dans les écoles. L'an dernier, des cas ont été rapportés dans 27 États américains, une année record. La Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario ont aussi été touchés. Se faire vacciner est une décision personnelle qui a des conséquences sur la collectivité. Pour stopper une maladie, le taux de couverture doit être de 95% dans la population. Les CDC, Center for Disease Control and Prevention, rapporte qu'il a baissé à 92% dans certaines régions, notamment en Californie. Les demandes d'exemption pour des croyances religieuses ou autres ont augmenté au cours des dernières années, rapporté le Washington Post cette semaine. donc fin janvier. La majorité des parents québécois font vacciner leurs enfants, mais des études ont révélé que le calendrier de vaccination, incluant celui du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, n'est pas toujours respecté. Des enfants commencent l'école sans avoir reçu toutes les doses recommandées. Depuis quelques années, la santé publique note un peu partout au Canada plus de réticences et de questionnements. Le mouvement anti-vaccin est contagieux et se propage vite. L'information facilement accessible sur Internet, sans que le vrai soit distingué du faux, ainsi que des cas anecdotiques de mauvaises expériences, contribuent à semer le doute. Sans oublier cette fameuse étude publiée en 1998 qui établissait un lien possible entre le vaccin RRO et l'autisme. Démentie depuis, elle continue néanmoins de faire des ravages. Le vaccin contre la rougeole peut causer des problèmes neurologiques graves dans moins d'un cas sur un million. À l'autre extrême, les effets secondaires de la rougeole peuvent être dramatiques. Une personne sur mille développe une encéphalite qui peut laisser des séquelles au cerveau, voire des retards mentaux. Une personne sur 3000 en meurt. Une certaine nonchalance par rapport à la maladie s'explique par le fait que les souvenirs des ravages de la rougeole s'estompent. On oublie qu'avant la découverte du vaccin, au début des années 60, le Canada comptait 400 000 cas par année. On oublie que la rougeole tue. D'ailleurs, c'est encore l'une des causes principales de décès chez les enfants dans le monde. Il faut redoubler d'efforts pour écouter les inquiétudes des parents et leur fournir des données fiables qui viendront contrecarrer les histoires d'horreur anecdotiques qui jouent sur la corde émotive. Mieux ils seront informés, moins on verra des vacances au pays de Mickey tourner au cauchemar. Pour eux, mais aussi pour les autres. Côté maison, un décor de papier peint, c'est l'ambiance du mois. Le papier peint donne un style flamboyant et actuel à la déco, à condition de savoir bien exploiter ses possibilités. Pour créer un effet captivant dans une petite pièce comme la salle d'eau ou l'entrée, on peut se permettre d'appliquer du papier peint sur tous les murs. On nous parle de motifs au décor géométrique, ambiance du mois à retenir.
Bonjour à tous, bienvenue à Canal Helm, le kiosque magazine. On continue avec le bonheur et les stratégies gagnantes pour y parvenir. C'est un article proposé par Julie Champagne dans Le Mois et Compagnie de mars 2015. Au-delà de la richesse et du pouvoir, le bonheur se positionne maintenant comme la quête suprême de notre société moderne. La bonne nouvelle ? Si la recette du bonheur varie en fonction des individus, il est possible de poser certains gestes pour être plus heureux au quotidien. Quatre experts du bonheur nous livrent leur astuce gagnante pour avoir une vie plus sereine et plus satisfaisante. Suffit-il de vouloir être heureux pour le devenir ? La question divise et enflamme les esprits. Si certains gourous décrivent la pensée positive comme une véritable panacée aux malheurs et aux idées noires, d'autres experts apportent des nuances. Si on désire être heureuse, on risque de se poser davantage de questions sur ce qu'on devrait faire pour le devenir, explique la docteure Stéphanie Léonard, psychologue. En revanche, les recherches démontrent qu'il y a une partie importante de notre bonheur qui ne dépend pas de notre volonté. Ainsi, la pensée positive a ses limites. La psychologue et auteure Lucie Mandeville abonde en ce sens. Certaines personnes ont une prédisposition héréditaire pour l'optimisme. Il ne s'agit nullement ici de gens qui ne connaissent jamais le découragement, la tristesse ou la frustration. Par contre, ils voient rapidement et instinctivement. Exactement, pardon. Okay. Instinctivement, la situation sous un angle positif. Le conférencier Pierre Côté se méfie pour sa part des marchands de bonheur qui promettent la félicité éternelle en affirmant que la volonté est le seul prérequis. Il n'y a rien de plus négatif que de se faire dire bêtement « quand on veut, on peut », c'est simpliste et réducteur. Oui, l'optimisme, l'ouverture et la confiance peuvent influer sur le bonheur. Mais croire qu'il suffit de vouloir être heureux pour le devenir, c'est sous-entendre que ceux qui sont malheureux sont responsables de leur sort. Non, il n'existe pas de recette ou de la pensée magique qui puisse garantir un état de bien-être continu. Mais alors, comment faire pour augmenter nos chances de bonheur en dépit de notre bagage génétique? Vouloir le bonheur est une chose, mais ce désir en soi ne suscite aucun changement, affirme David Bernard, notre coach de vie. Pour être heureux, il faut d'abord développer une pratique et un mode de vie qui favorise le bonheur. On continue donc avec les conseils de David Bernard et ses stratégies gagnantes, coach certifié en PNL, conférencier et auteur reconnu.
PNL, c'est quoi ?
C'est la programmation neuro-linguistique.
Ah, ok.
Voilà, donc le premier conseil de David Bernard, observer nos pensées. Si on sème des mauvaises herbes, on ne récoltera pas des fraises. Il est essentiel d'apprendre à observer nos pensées. Quand on entretient constamment des pensées négatives, il est impossible d'être heureux car notre jardin intérieur est envahi par le négativisme. Deuxième stratégie.
Des mauvaises herbes.
Exactement, il faut défraîchir. Deuxième stratégie, trouver notre propre définition du bonheur. Il est primordial de se demander ce que représente le bonheur pour nous, pour s'en approcher. Par exemple, pour certains, le bonheur, c'est de commencer la journée avec un café, de s'entraîner 3 fois par semaine, de manger du chocolat après le dîner, de rire beaucoup au travail, de passer 10 heures de qualité par semaine avec les enfants. La recette du bonheur est différente pour chacun de nous. Il est donc essentiel de se connaître. Troisième stratégie, sourire en se réveillant. La première chose que je fais en me levant, c'est sourire. Cette habitude influence ma physiologie, c'est-à-dire que mon corps influence mon esprit positivement. Sans raison, je me sens heureux et de bonne humeur. Quatrième stratégie, diversifier ses plaisirs. Le bonheur, c'est comme un bouquet de ballons. Si le bonheur repose sur un seul gros ballon, par exemple, une relation amoureuse ou un travail, et qu'un jour, celui-ci se dégonfle, on risque de tomber de haut. Il est donc très important de diversifier notre bouquet, soit par plusieurs petits bonheurs, plutôt que par un seul gros. Cinquième stratégie, contempler ce qui nous entoure. La contemplation est une pratique efficace pour développer notre faculté au bonheur. Il suffit de quelques minutes par jour pour observer quelque chose et constater sa beauté. Ce peut être un objet, un paysage, une personne. Plus on se connecte à cette beauté, et plus on sentira de paix en soi. Sixième stratégie, faire le ménage de nos relations. Les 5 personnes les plus proches de nous sont celles qui ont le plus d'influence sur notre vie, de façon positive ou négative. Il est donc très important de porter attention au choix de celles qu'on laisse entrer dans notre intimité émotionnelle. Septième stratégie, s'ouvrir plutôt que résister. Chaque personne qui croise notre chemin est un enseignant. Il faut simplement le remarquer et le comprendre. Par exemple, cette personne devant nous à la caisse qui nous exaspère en prenant son temps pour payer est en fait placée spécifiquement sur notre chemin pour nous enseigner la patience. Plus on résiste, plus on souffre. Plus on s'ouvre et plus on grandit. Dernière stratégie de David Bernard, se donner droit au bonheur. On ressent souvent le besoin de justifier notre bonheur. Or, je me répète souvent que je mérite d'être heureux maintenant. Et sans raison. Relever le défi santé 2015, un article de Lucie Coderre, Santé Express, dans Le Mois et Compagnie de 2015, mars. Les champions de la santé, C'est le thème du défi santé 5-30 équilibre 2015. Et vous êtes invités à y participer du 1er mars au 11 avril. En effet, il est simple de devenir la championne de sa propre santé. Il suffit d'atteindre ces trois objectifs pendant 6 semaines. Objectif 5. Manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Objectif 30. Bouger au moins 30 minutes par jour. Objectif équilibre. Prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre dans sa vie. Vous y gagnerez à cultiver ses habitudes de vie, puisqu'elles favorisent une meilleure santé physique et mentale. Inscrivez-vous au défisanté.ca à partir du 21 janvier 2015 et vous pourriez gagner des prix, obtenir du soutien et profiter d'une nouvelle application web exclusive aux participants.
Safran cultivé au Québec. Un texte de René Lorrain paru dans le Journal de Montréal le 4 février 2015.
Ça se cultive aussi sous la neige?
Oui, ben, en fait, vous allez voir que le safran est une plante vraiment intéressante, c'est une fleur vraiment intéressante à végétation inversée. Alors en fait, elle dort durant l'été et puis durant l'automne, elle se réveille et la récolte
génial.
Se fait durant l'automne apparemment. Donc oui, ça se cultive au Québec. Lorsque la route de Micheline Sylvestre a croisé celle du safran en novembre 2013, elle a su qu'elle venait de trouver ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Une plante fragile à aimer et à cultiver, pleine de mystères à découvrir et à partager. Première surprise, cette délicate fleur mauve, habituellement cultivée sous le chaud soleil des régions de la Méditerranée, s'accommoderait très bien de nos hivers québécois, à la condition de pouvoir compter sur un épais manteau de neige pour la protéger durant la saison
morte.
Donc voilà, tout s'explique.
Ouais, ça protège. La neige protège.
Oui. Depuis des millénaires, on en tire une épice précieuse issue des stigmates séchés des fleurs de safran. Donc en fait, dans la fleur, vous avez des petits pistils, des stigmates, et c'est ce qu'on récolte. En fait, c'est ce qui fait le safran. Donc le nom du safran, le nom scientifique, si vous le voulez, c'est le Crocus sativus. Si elle réjouit l'œil et envoûte le nez des épicuriens avec son parfum suave rappelant le foin, elle ne manque pas de fasciner l'imaginaire de tous ceux qui s'intéressent à son histoire. Dans la mythologie grecque, la légende la plus connue sur le safran met en scène une histoire d'amour impossible, celle de Crocus, un jeune et bel homme tombé éperdument amoureux de l'inaccessible nymphe Smilax. La jeune femme, lassée de son amoureux, aurait transformé son prétendant en fleur de safran pour calmer ses ardeurs. Ces stigmates orange flamboyants symboliseraient la passion immortelle de Crocus pour sa belle Smilax. Et pour l'histoire, dans les Métamorphoses d'Ovide, Smilax est transformée en salse pareille. C'est une liane. Oui, c'est ça, un style de liane. Ces stigmates orange flamboyants donc symboliseraient la passion immortelle de Crocus pour sa belle Smilax, une histoire parmi d'autres qui pourrait expliquer les vertus aphrodisiaques qu'on attribue depuis toujours à cette épice légendaire. J'aurais voulu découvrir cette passion bien avant, dit celle qui a œuvré dans le milieu du cinéma pendant des années, avant de se lancer, il y a un an, dans la culture et la transformation de cette plante mythique avec son frère Pierre Sylvestre et son ami Émilie Bergeron. Au Québec, c'est nouveau, un projet un peu fou, en plein ce que je cherchais pour exploiter ma terre, raconte Micheline. Un moment magique, à l'issue d'une formation sur l'identification et la cueillette de produits forestiers non ligneux, elle rencontre Nathalie Deneau, propriétaire de Pur Safran, première entreprise québécoise à oser la culture du safran, à Saint-Élie-de-Caxton, en 2012. D'ailleurs, Pur Safran, c'est aussi la première safranière au Canada, et il semblerait même dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et à ce jour, il y a trois safranières, en fait, au Québec. Elle lui a transmis, donc, cette dame, Nathalie Deneau, lui a transmis tout son savoir sur la culture de cette épice très convoitée. L'été dernier, donc été 2014, Micheline a planté ses premiers bulbes avec ses deux partenaires sur les terres de sa fermette de Saint-Damien, dans la région de Lanaudière. Ils ont réalisé leur première récolte en octobre. Voir apparaître la première fleur a été un moment magique, se souvient-elle. Après la floraison, tout s'enchaîne rapidement. Nous avons 24 heures pour cueillir les fleurs avant qu'elles se fanent. Parce que les fleurs s'ouvrent et c'est là donc que les pistils...
C'est très court en fait.
Donc, c'est très rapide, en 24 heures effectivement. De la plantation des bulbes à la récolte des fleurs et des stigmates, tout doit être fait à la main. Un travail de moine qui explique le prix élevé de cette épice qu'on a baptisée l'or rouge. Une bonne partie de la première récolte d'Emporium Safran, c'est le nom de son entreprise, a été vendue à des chefs. Le reste a servi à la confection de produits fins parfumés au safran. Pour le moment, nous nous sommes limités à la production de sirop et de gelée de safran, explique Micheline. D'autres produits verront le jour sous peu. Chose certaine, la demande est là. Emporium Safran sera présent au marché Jean Talon les 21 et 22 février dans le cadre du Festival Montréal en Lumière afin de faire découvrir ses produits. On parle de safran et puis j'ai fait un petit lien dans ma tête. Le safran, on l'utilise beaucoup dans des plats espagnols comme par exemple la paella. Ouais. Et puis j'ai trouvé un petit article en fait sur les tapas, petites héroïnes d'une révolution gastronomique. Alors je me suis dit que ce serait parfait.
Avant le déjeuner.
Oui, exact. Alors c'est un petit article paru dans le journal Métro du 4 février 2015. Espagne, elles séduisent les grands chefs, se hissent en tête des concours gastronomiques et sont dégustées dans des établissements qui leur sont dévoués. En Espagne, la révolution des tapas est à l'œuvre. Amuse-gueule indéfinissable, les tapas ne sont ni une entrée, ni un plat principal, ni un dessert, ce qui laisse à ceux qui les préparent une grande liberté de création, explique à l'AFP, l'agence France Presse, Sergi Arola, propriétaire d'un restaurant qui porte son nom et qui a 2 étoiles Michelin à Madrid. Parmi ses inventions figurent un carpaccio de champignons portobello à l'huile de truffe blanche, des ailes de poulet et leur sauce coréenne kimchi ou une version contemporaine des patatas bravas. Des cubes de pommes de terre à la poêle, normalement assortis d'une sauce très relevée. C'est toute une expérience, s'exclame Claire Dreyer, touriste américaine de 33 ans accoudée à un comptoir du marché couvert madrilène San Miguel, très à la mode. Espagnol et étranger y déambule, verre de vin rouge à la main, dégustant ces petits mets si prisés, dont Jared Andy, le fiancé de 36 ans de Madame Dreyer, qui admire leur qualité et leur sophistication. Servis aujourd'hui dans les hôtels 5 étoiles et les réceptions officielles, les tapas ont pourtant des origines modestes. Elles seraient apparues il y a des siècles de cela, au Moyen-Âge. La tapa, ou couvercle en espagnol, n'était alors qu'une vulgaire tranche de charcuterie qui avait pour vocation d'empêcher les poussières et les insectes de s'introduire dans le vin. Parfois, elle se présentait sur une petite soucoupe qui couvrait les carafes de vin et devait obligatoirement être consommée par ordre du roi, qui cherchait ainsi à limiter les beuveries. Pendant des siècles, leur statut d'encas sans prétention servi gratuitement avec chaque verre consommé et cuisiné avec ce que les chefs avaient sous la main est resté. Auparavant, les tapas étaient un mets ordinaire, reconnaît Angel Morton, responsable de l'École internationale de gastronomie de Valladolid, qui organise chaque année un concours de tapas avec des chefs venus d'une dizaine de pays. Il y a eu ces dernières années un boom et de véritables merveilles ont été créées, se félicite-t-il. L'origine de cette métamorphose est à chercher dans une autre révolution culinaire qui a déjà largement fait parler d'elle et qui s'est produite à la fin des années 90 au sein d'El Bulli, 5 fois détenteur du titre de meilleur restaurant du monde. Dans ce resto de Ferran Adrià, les tapas étaient un peu comme une déclaration d'intention, résume Sergi Arola. Le pape de la cuisine moléculaire avait imaginé un menu de tapas présenté juste avant le menu gastronomique et il offrait sa propre définition de ses amuse-gueules, se souvient son ancien comparse. Petit bémol, par contre, qui est mentionné en fin d'article, il s'agirait d'un triomphe à double tranchant. Citation, le risque c'est que l'on finisse par servir aussi des tapas dans les fast-foods et qu'elles perdent leur prestige, s'inquiète Sergi Arola.
C'était une journée d'enfer, il n'y avait plus qu'à s'enfuir. Trop plein de foutus par terre, trop peu de qui va s'en dire. J'ai décoré ma vaisselle avec un goût de poubelle chez moi. C'était une journée d'enfer, pas mal animal. Un de ces jours à se faire, un moral de sous-sol sale. J'ai enroulé à la pelle mes devoirs de demoiselle. Ces journées qu'on perd et les passants dans les rues apprivoisés à se taire, un parfum de déjà vu. J'ai abouti sur la plage en compagnie d'un café au pied d'un nuage. Arracher les pages, sucré l'azur à l'allure, ne scintillant plus. Une de ces parties qu'on perd quand les matins tiennent à mourir, les amis tombent en poussière. Hier parlait d'avenir. J'ai fracassé ma vaisselle au fond d'un fond de ruelle sans chat. C'est la nuit, toute la nuit, qu'il me faut des paradis. C'est la nuit, toutes les nuits, je me défonce à l'ouvrir. Avant que l'aube chagrin me trouve perdu.
Eh bien, c'était Bory avec une journée d'enfer. Moi, je vais vous parler de gros mots. C'est un texte de Vincent Marissal, toujours dans le Véro Magazine de l'hiver 2014-2015. Si on en croit les médias, nous vivons un calvaire quotidien. Les scènes apocalyptiques se multiplient, le chaos se répand, l'horreur règne. Et si on relativisait un peu ? Catastrophe, enfer, misère, chaos, désastre, calamité. Un immigrant tout juste débarqué d'Haïti ou du Soudan du Sud, qui écouterait les bulletins de circulation de Montréal sans savoir de quoi il s'agit, pourrait fort bien croire que les calamités de son pays d'origine l'ont suivi jusque dans son nouveau refuge nordique. En matière de circulation automobile, on aime les superlatifs. Je crois même qu'au cours des dernières années, la circulation est devenue une concurrence féroce de la météo dans la catégorie obsession populaire et autres choses plus ou moins importantes qui font jaser le monde. Loin devant le temps d'attente aux urgences et tout juste derrière les changements de trio du Canadien de Montréal. Depuis quelques années, on a même une station de radio dédiée exclusivement à la circulation. On avait déjà Rouge FM et on a maintenant Cône Orange AM. Quand j'étais petit, on écoutait les matchs de baseball des expos à la radio. Aujourd'hui, pour se divertir, les petits garçons écoutent les bulletins de circulation. Avec tous ces superlatifs, toutes ces images, ils ont l'impression de suivre une catastrophe en direct. J'ai d'ailleurs le plus grand respect pour les animateurs qui décrivent l'état du réseau routier. Une affaire pas mal plate, en fait, avec enthousiasme et originalité. Cela dit, pourrait-on modérer nos transports et freiner l'enflure verbale ? Mettre une heure pour se rendre sur la rive sud, ce n'est pas une catastrophe. C'est un ennui, un retard. Au pire, un casse-tête pour les automobilistes qui cherchent un autre chemin. Lac Mégantic a vécu une catastrophe et même l'enfer. Dans la région de Montréal, les automobilistes vivent des désagréments. Nuance. Les Syriens, eux, vivent quotidiennement l'enfer depuis des années. Nous, au Québec, on subit des délais. Bien assis dans nos autos, en écoutant la radio nous dire que nous sommes en enfer. Je pense qu'en insistant aussi lourdement, les médias amplifient le problème. Ils contribuent à la psychose de la circulation et créent de nouvelles maladies mentales, comme la conite chronique, la dépression post trop de trafic ou le syndrome du nid de poule. À force de se faire répéter qu'on se meut de catastrophe en désastre dans un enfer permanent, pas étonnant que certains d'entre nous pètent les plombs et deviennent enragés. Cette obsession de la fluidité dans les transports perpétue aussi l'impression que tout automobiliste a le droit constitutionnel de circuler sur des routes dégagées en tout temps. Circuler en plus seul dans son véhicule, en maugréant contre les bouchons qu'il allonge lui-même. Je vous rassure, je ne suis pas un citoyen de la République autonome du plateau Mont-Royal, allergique aux automobiles et converti à la religion Bixi. J'ai une auto, je m'en sers et comme vous, je sacre contre la prolifération des bouchons à toute heure du jour et de la nuit à Montréal. Je fais un peu de vélo pour les petites courses à Montréal, mais la cohabitation est difficile et parfois dangereuse entre les vélos et les autos, entre les vélos et les piétons et même entre les vélos et les vélos. Je constate, comme vous, que la circulation est de plus en plus lourde dans la région métropolitaine et aussi à Québec et à Ottawa, qu'il est plus ardu de circuler et que les gens automobilistes, cyclistes et piétons sont de plus en plus hargneux les uns envers les autres. Je ne parlerai toutefois pas d'enfer ou de catastrophe, terme qui relève, je le répète, d'une enflure verbale contre-productive. Il n'y a que dans le domaine de la circulation qu'on pêche par un usage abusif de superlatifs. Dans les médias en particulier, on a la catastrophe facile, le recours aux gros mots est malheureusement très répandu. Un exemple parmi d'autres, ce titre coiffant un article sur l'incendie d'une école primaire à McMasterville dans la presse l'été dernier. Une tragédie d'une tristesse inouïe. La communauté de McMasterville, qui a perdu son école, a toute ma sympathie. Mais une tragédie? L'incendie dévastateur de la maison de retraite de l'île Verte, qui a fait 32 victimes, est une tragédie d'une tristesse inouïe. McMasterville, c'est un coup dur. Ça me rappelle un séjour que j'ai fait à Haïti pendant l'hiver 2010. De la terrasse d'un ami, dans les hauteurs de Pétionville, j'avais une vue imprenable sur un quartier complet de Port-au-Prince, dévasté par le tremblement de terre. Mon portable a sonné, appel de Montréal. La voix, à l'autre bout, m'a parlé d'une situation domestique somme toute banale, en la qualifiant de « véritable catastrophe ». Si ce que tu me décris est une véritable catastrophe, je vais manquer de mots pour décrire la scène qui est devant moi. Ai-je répondu. Il faut faire attention avec les mots graves, ils rétrécissent à l'usage. Un médicament, deux mesures. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, devant la médication du moins. Une enquête réalisée par le magazine Science et Vie révèle que les médicaments soignent mieux les hommes que les femmes et que leur efficacité sur le métabolisme féminin est mal connue puisque la majorité des études cliniques sont effectuées davantage sur des hommes. Des scientifiques ont même découvert que les risques d'effets secondaires étaient de 50% supérieurs chez les femmes. La nature de ces effets varie également selon le genre. Ainsi, l'aspirine diminue les risques d'infarctus chez les femmes, chez les hommes, pardon, tandis qu'elle protège le cerveau des femmes d'un AVC. Quant aux somnifères, le corps d'une femme met plus de temps à les éliminer que celui d'un homme.
Voici déjà la fin de notre émission et le temps de nous dire au revoir. Nous tenons donc à vous remercier, vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre présence. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour sa mise en onde et ses choix musicaux toujours très appropriés et pertinents. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre au numéro sans frais, le 1-800-361-0635, le poste 220, ou bien de nous écrire à l'adresse courriel canalm@vuesetvoix.com.